VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 octobre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoulia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Le secrétaire américain à la défense Jim Mattis annonce une enquête sur le guet-apens qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens le 4 octobre dernier au Niger.
Début hier au Mali de la tournée des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU dans des pays du G5 Sahel.
Au Togo, l'opposition a signalé hier 3 morts et des dizaines de blessés dans des heurts à Lomé entre jeunes et forces de l'ordre. Démenti des autorités.
Au Liberia, George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle le 7 novembre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a déclaré hier que le Pentagone enquêtait sur la mort de 4 soldats américains au Niger où ils sont tombés ce mois-ci dans une embuscade tendue par des djihadistes. En annonçant cette enquête à la presse, M. Mattis a promis de fournir à temps toute nouvelle information à ce sujet. Des militants du groupe État islamique ont tendu leur embuscade le 4 octobre dernier contre des soldats nigériens et américains dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. 4 soldats nigériens ont aussi perdu la vie dans ce guet-apens. Les membres des forces spéciales américaines appelées Bérets Verts se dirigeaient vers leur véhicule après une réunion avec des responsables locaux quand ils ont été attaqués, on dit à la VOA, des sources qui ont requis l'anonymat.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont débuté hier au Mali une tournée axée sur la constitution d'une force des pays du Sahel. À l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres hauts responsables maliens, l'ambassadeur français François Delattre a déclaré que la future complémentarité entre la force anti-djihadiste du G5 Sahel et la mission de l'ONU au Mali peut, à certains égards, devenir un modèle d'articulation entre une force de maintien de la paix et une force africaine. À l'initiative notamment de la France, qui préside en octobre le Conseil de sécurité, les ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil visitent jusqu'à dimanche le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso, membres du G5 Sahel avec le Niger et le Tchad.
Au Togo, 3 personnes ont été tuées par balles et des dizaines d'autres blessées jeudi dans des heurts à Lomé entre jeunes et forces de l'ordre avant une manifestation interdite. Selon l'opposition togolaise, ces derniers ont blessé par balles 44 personnes et battu 36 autres. Le ministre de la Sécurité, le colonel Jacques Damham, a démenti ce bilan. Aucune mort ne nous a été signalée. Le ministre est également revenu sur un bilan précédent du gouvernement, disant qu'aucun mort n'a été enregistré mercredi à Sokodé et mettant cette erreur sur le compte de la confusion régnant dans les services hospitaliers de Sokodé.
La délégation de l'Union européenne au Gabon a réitéré sa demande auprès des autorités gabonaises pour ouvrir une enquête indépendante sur les violences post-électorales qu'a connu le pays en août et septembre 2016. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier soir. Pour l'Union européenne, il s'agit là d'un passage obligé afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et de garantir la stabilité durable du système démocratique. Le Gabon participe à ce dialogue de bonne foi, a réagi dans la soirée le porte-parole du gouvernement.
Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, sera jugé aujourd'hui à Abidjan pour divulgation de fausses nouvelles. Il avait annoncé la disparition de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Solange Niamoulissa.
Maître Ange Rodrigue Dadjé a affirmé que Michel Gbagbo comparaîtra devant le tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau où il est poursuivi pour complicité de divulgation de fausses nouvelles. Il est poursuivi en même temps que le journaliste français Laurent Despace, directeur du site d'information Kouassi.com. Ce procès, annoncé à la mi-juin, a déjà été reporté à 2 reprises. L'absence du co-accusé Laurent Despace depuis le 6 juin a également motivé ce report. Les 2 hommes ont été inculpés le 26 mai 2016, mais laissés en liberté à la suite d'une interview accordée par Michel Gbagbo à Kouassi.com. Dans cet entretien, Le fils Babo déclarait qu'au 30 mars 2016, 250 personnes étaient détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues. Le procureur Richard Adou avait qualifié ces déclarations de sans fondement et mensongères. Michel Babo avait été condamné le 10 mars 2015 à 5 ans de prison pour attentat à la sûreté de l'État sans toutefois être écroué.
Accord entre Dakar et Paris sur la délivrance de visas, la collaboration militaire et des projets de développement. Les premiers ministres français et sénégalais ont signé à Paris une déclaration commune, Eddy Issango.
La France souhaite augmenter les nombres et la durée des visas de circulation. D'un an, la durée des visas passera à 5 ans, permettant des séjours allant à 90 jours par période de 6 mois. Paris s'efforcera par ailleurs de réduire les délais de délivrance en période estivale, notamment pour les étudiants. De son côté, le Sénégal doit mettre en place avec des fonds européens un fichier national d'identité biométrique avec un état civil modernisé et peut-être une prolongation à 10 ans de la durée de validité de ses passeports. Côté immigration illégale, les retours volontaires seront facilités avec notamment une meilleure articulation du programme de réinsertion des migrants au Sénégal. Le projet d'un grand campus franco-sénégalais dans la ville nouvelle de Diamnadio, la lutte contre l'érosion à Saint-Louis et le développement d'écoles militaires locales axées sur la cybersécurité sont également prévus. C'est là, sur fond de présence militaire française importante au Sénégal et dans le cadre de l'opération Barkhane dans les pays du Sahel voisins.
Au Libéria, le second tour de la présidentielle est fixé au 7 novembre. Il opposera le sénateur George Weah, légende du football africain, au vice-président sortant Joseph Boakai. Le point avec Eric Manirakiza.
Les deux adversaires sont arrivés en tête le 10 octobre lors du premier tour. George Weah a obtenu 39% devant Joseph Boakai avec plus de 29%. La campagne a repris hier pour 18 jours et sera clôturée dimanche 5 novembre à minuit. Le 7 novembre, le scrutin permettra de désigner un successeur à Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix. Elle a été élue une première fois en 2005 et ne peut plus se représenter après avoir brigué deux mandats de 6 ans. Le jour du premier tour, Mme Sirleaf a estimé que le Libéria était prêt pour la transition. Depuis 3 générations, c'est la première fois que le Libéria connaît une alternance à travers une élection démocratique. Le premier tour a connu une forte participation et 20 candidats étaient en lice. Les électeurs ont également renouvelé les 73 sièges de la Chambre des représentants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rend aujourd'hui au Moyen-Orient, où il doit assister à Riyad à la première rencontre entre les gouvernements saoudiens et irakiens et explorer les moyens d'améliorer les relations entre Riyad et Bagdad. Cette rencontre est vue comme faisant partie des efforts américains pour réduire l'influence grandissante de l'Iran en Irak, en encourageant Bagdad à se rapprocher davantage de Riyad. Monsieur Tillerson profitera de sa présence en Arabie Saoudite pour discuter du conflit au Yémen, de la dispute entre le Qatar et ses voisins arabes du Golfe, l'Iran et d'autres importantes questions régionales et bilatérales, selon le Département d'État américain.
Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, est arrivé sans dire un mot au sommet de l'Union européenne qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. La crise née du référendum d'autodétermination en Catalogne ne figure pas à l'agenda, mais elle n'est pas ignorée. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La chancelière allemande Angela Merkel a affirmé qu'elle soutient Madrid. Le président Emmanuel Macron, lui, a déclaré que les leaders européens vont envoyer un message d'unité autour de l'Espagne. Les dirigeants belges et luxembourgeois Charles Michel et Xavier Bettel ont préféré insister sur un appel au dialogue entre Madrid et les séparatistes catalans. Charles Michel a démenti de supposées tensions entre Bruxelles et Madrid sur les déclarations belges à propos de la crise catalane. Le premier ministre slovène Miro Cerar a quant à lui reconnu avoir une position émotionnelle dans ce débat en raison de l'histoire de son pays sorti de la Fédération yougoslave. Le gouvernement espagnol accuse le dirigeant séparatiste Carles Puigdemont de chercher l'affrontement systématique. Madrid assure que samedi, un conseil des ministres extraordinaire va définir les mesures de suspension de l'autonomie de la Catalogne en vue de leur validation fin octobre par le Sénat.
La Minute Écho et Kiabadou.
Les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat stratégique, notamment pour l'exploitation de l'espace maritime entre les deux pays. Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont convenu de l'élaboration de dispositions pratiques pour l'élaboration et la gestion en commun des ressources pétrolières et gazières transfrontalières. Le litige maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été tranché par le Tribunal international du droit de la mer en septembre dernier. C'est en décembre que débutera l'exploitation du champ de gazier de Zohr, découvert au large des côtes égyptiennes il y a 2 ans. Avec ce champ estimé à 850 milliards de mètres cubes, l'Égypte espère redevenir autosuffisante en gaz. L'initiative Afro-Champion a annoncé la création du club Afro-Champion, une nouvelle plateforme d'échange mobilisant les multinationales africaines pour accélérer l'intégration économique. L'objectif est de faire une série de recommandations à l'Union africaine pour la mise en place de la zone de libre-échange continental. C'est le début de la saison touristique en Gambie. Les touristes viennent principalement des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne ou de Scandinavie. Avec l'agriculture, ce sont les deux moteurs de la croissance de ce petit pays de quelques 2 millions d'habitants.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le nouveau sélectionneur de l'Algérie a pris ses fonctions.
Effectivement, Idrissa, Rabah Madjé, le nouveau sélectionneur des FENEC, estime que les mauvais résultats de l'équipe d'Algérie sont dus à un problème psychologique. Madjé veut redonner confiance aux joueurs, dit-il, après leur élimination du Mondial 2018. Nommé mercredi à la place de l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé le 11 octobre, Madjé, ancien attaquant vedette de l'Algérie et ancien ballon d'or africain, a la tâche de remettre sur les rails une équipe nationale traumatisée après ce double échec. C'est le 5e entraîneur pour l'Algérie en 3 ans.
Le Nigeria, justement, qui avait éliminé l'Algérie, son sélectionneur s'exprime ce soir sur VOA Afrique.
Après avoir manqué les Cannes 2015 et 2017, le Nigeria a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde Russie 2018. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Gernot Rohr revient sur ce beau parcours en éliminatoire et sur les ambitions du Nigeria pour le Mondial 2018 en Russie. On écoute le sélectionneur des Sapeurs Eagles, Gernot Rohr.
On sera probablement comme les autres pays africains dans le pot numéro 4. C'est-à-dire il y aura de très grosses équipes à battre, mais on est ambitieux, on a une équipe jeune, on va essayer de bien se préparer et au-delà du résultat de la Coupe du Monde, c'est faire progresser le football nigérian à travers un jeu plaisant et un jeu agréable.
C'était donc Gernot Rohr, le sélectionneur des Sapeurs Eagles du Nigeria, joint par Nicolas Pineau. Une interview à retrouver sur voafrique.com.
La Ligue Europa hier soir.
Tout à fait. Arsenal est allé conforter sa position de leader du groupe H sur le terrain de la modeste formation serbe Mvenan Vezda, battu 1-0. Pareil pour la Lazio de Rome qui a dominé Nice à domicile 1-3 et compte désormais 9 points, soit 3 de plus que le club français. Bonne opération pour l'Olympique de Marseille qui a battu Guimaras 2-1 au Vélodrome et pointe à la deuxième place du groupe I avec 1 point de moins que le club autrichien Red Bull Salzbourg qui a surpris Konyaspor à domicile 2-0. Le club espagnol Real Sociedad a corrigé Vardar de la Macédoine 6-0, 2-2 entre Bilbao et Östersund, 3-1 pour les Zenit Pétersbourg devant Rosenborg. Enfin, Idrissa, la NBA, championnat nord-américain de basketball, les résultats de la nuit dernière.
Toronto Raptors contre Chicago Bulls, 117-100. Oklahoma City Thunder contre New York Knicks, 105-84. Et Los Angeles Clippers contre Los Angeles Lakers, 108-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les élections en République démocratique du Congo, préoccupation majeure de tous les Congolais en ce moment. Alors que l'enrôlement se poursuit jusqu'en janvier 2018 au Kasaï, la commission indépendante a annoncé la semaine dernière avoir besoin de 504 jours de plus à la fin de l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Cette annonce a provoqué la colère de l'opposition. Et l'évaluation du processus électoral faite par le gouvernement, le Conseil de suivi de l'accord du 31 décembre et la CENI n'a pas apaisé les esprits. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La CENI dispose maintenant, à l'issue de ses travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier dans le plus bref délai le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Le futur calendrier électoral dont nous souhaitons la publicité dans le plus bref délai doit être, on ne peut plus, réaliste.
C'est en ces termes que le Premier ministre Bruno Tshibala conclut les travaux de la tripartite gouvernement, Conseil national de suivi de l'accord, Commission électorale nationale indépendante, censée évaluer le processus électoral conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Sans préciser de délai, la tripartite a recommandé, après 4 jours de travaux, de publier un calendrier réaliste. Ce qui n'est pas du goût de beaucoup. L'UNC de Vital Kamerhe a d'ailleurs critiqué ces travaux auxquels il n'a pas pris part et exigé qu'un calendrier soit rendu public.
Toute évaluation tripartite sans calendrier électoral est illusoire et par conséquent constitue des manœuvres dilatoires pour retarder indéfiniment les élections. L'UNC invite-t-elle les forces politiques et sociales d'adopter un plan d'action commun pour mobiliser notre peuple à réclamer son droit de choisir ses dirigeants en application de l'article 64 de la Constitution afin de faire échec au stratagème du régime en place tendant à instaurer une présidence à vie dans notre pays.
La CENI a en effet annoncé avant la convocation de la tripartite qu'elle a besoin de 504 jours après l'enrôlement pour organiser les élections. Seule à la soutenir dans cette démarche, la majorité présidentielle. André Alain Atundu en est le porte-parole.
Ce sont des contraintes techniques que la CENI a décidé de communiquer à l'opinion en toute responsabilité. Personnellement, je pense qu'il faudrait accorder beaucoup plus de crédit à ce que dit la CENI, à ce que espèrent les hommes politiques. Nous avons été rattrapés par notre turpitude de la cité de l'Union africaine et de la CINCO, poussée en cela par l'opposition radicale. Eh bien, aujourd'hui, il nous faut nous mettre à l'évidence que tous nos calculs politiques doivent partir de ces 504 jours.
Crise politique accentuée donc en République démocratique du Congo, alors que le pays attend avec impatience le calendrier électoral que la CENI est appelée à publier dans les tout prochains jours. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption révèle que 98% des détournements du carburant sont attribuables à la présidence de la République. C'est ce qui ressort d'un rapport d'audit de 2016 consacré également à la primature et au ministère burkinabé. Le rapport note des irrégularités dans la gestion du carburant à la présidence du Faso, relevant que sur environ 200 205 millions de francs CFA irrégulièrement utilisés, 90% l'ont été à la présidence. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Les investigations des contrôleurs d'État ont porté sur quatre grands domaines que sont la commande publique, les comptes des dépôts, les régies d'avance, le carburant et les lubrifiants. Sur ce dernier point, la présidence du FASO a été épinglée comme la plus dévoreuse du carburant de façon irrégulière. Le président de l'autorité supérieure de contrôle d'État, Luc-Marius Ibriga, explique.
Nous avons noté que la gestion du carburant était quelque peu informelle. Si vous savez que dans l'année, vous avez budgétisé 50 visites inopinées, peut-être que vous allez avoir 60 ou bien vous allez avoir 40. Mais en ce moment, vous savez comment vous allez faire. Mais si vous n'avez pas budgétisé, que bon, on réagit au cas par cas, il y a tel plénipotentiaire qui vient, on doit utiliser telle voiture, bon, il n'y a pas d'encadrement de l'utilisation des véhicules et du carburant. Ben, certaines personnes peuvent passer par ce biais-là pour se servir du carburant et même ouvrir de petites stations.
Ousmane Jean-Pierre Siribier, le secrétaire général du contrôle d'État, renchérit en donnant les détails. On l'écoute.
En fait, le carburant, c'est des valeurs en définitive. C'est comme c'est de l'argent. Donc, les risques que nous avons à ce niveau, c'est que les gens, ils utilisent le carburant à d'autres fins. Par exemple, aller échanger ça au niveau d'une station d'essence contre de l'argent. Un bon de carburant de 5 000, par exemple, ils peuvent aller l'échanger contre une somme d'argent.
Comment juge-t-on ce rapport d'audit du côté de l'opposition ? Mamadou Kabré, le président du parti Brit Lanaya, donne son avis.
Ce rapport-là ne révèle pas en fait la vraie face de ce régime-là qui a eu à avoir des accointances avec le régime de M. Blaise Compaoré. La vraie face de ce régime-là, de M. Roch Kabore, va apparaître avec les rapports qui vont intervenir en 2017, 2018 et 2019, qui seraient une année avant l'année électorale. Parce que le régime de M. Roch Kabore, qui a eu des accointances avec le régime déchu, ils étaient passés maîtres justement dans l'art de passer les marchés à leurs copains et coquins pour justement avoir en retour des investissements pour leur campagne électorale.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Bruno Conné a annoncé en août dernier la réduction de la période d'émission des factures d'eau par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI. Selon cette nouvelle mesure prise en Conseil des ministres, les abonnés de l'unique société de distribution d'eau du pays paieront désormais leurs factures tous les 2 mois au lieu de 3 mois. Une décision contestable pour des millions de consommateurs, nous dit notre correspondant à Boaké, Siriki Baro.
Dès l'annonce de ce nouveau mode opératoire, la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire est montée au créneau pour dénoncer une telle réforme. Pour elle, cette décision est une autre manière malicieuse et insidieuse de renchérissement de ce produit de première nécessité et de très grande consommation à travers la taxe à valeur ajoutée. Pour Amédée Koffi Kouakou, ministre des Infrastructures économiques, cette décision ne vise pas l'inflation des factures, mais plutôt sa réduction. Il estime qu'il est plus aisé pour l'Ivoirien de faire face à une facture d'un montant de 2000 francs tous les 2 mois plutôt que de faire face à une facture de 6000 francs chaque 3 mois. À Boaké, les consommateurs sont pour la plupart inquiets. Comme ce commerçant du nom de Diao Mamadou, ils devront faire face aux factures d'eau parfois très élevées 6 fois au lieu de 4 fois par an en alternance avec les factures d'électricité émises par la compagnie ivoirienne d'électricité.
Vu les conditions dans lesquelles nous vivons présentement, rien ne bouge. Même les 3 mois là même pour payer, là, c'est un problème. Donc ils ont raccourci ça. Ma facture venait jusqu'à 25 000 et quelques.
Même son de cloche pour Conan Bertin, instituteur à la retraite qui ne vit aujourd'hui que de sa pension de retraite.
Aujourd'hui, vraiment, pour avoir l'argent, vraiment, c'est un peu difficile. Parfois, les factures arrivent aussi vraiment à un prix exorbitant. Vraiment, on ne sait pas à quoi est dû cela. Vraiment, les clients, les consommateurs, nous avons des problèmes.
Avec une mesure pareille, avoir un puits à domicile peut s'avérer utile. C'est grâce à cela que Madame Kwaku, ménagère, arrive à supporter le coût de ses factures d'eau, même si elle avoue ne pas comprendre pourquoi le gouvernement a pris la décision de réduire le délai d'émission des factures.
Vraiment, on ne sait pas pourquoi ils ont mis à 2 mois. Sinon, en 3 mois, là, ça nous a arrangé. Les factures grimpent seulement. Pourquoi moi, là, bon, comment j'ai pu chez moi? Ces puits, là, je prends pour faire tout. Mais puis, l'eau, là, c'est pour boire. Et puis, souvent, c'est pour préparer. Donc, souvent, mes factures venaient 3 000 et quelques. Si c'est trop, peut-être c'est 4 000.
Notons toutefois qu'aucune date n'a pour le moment été annoncée par le gouvernement relativement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Une mesure dont l'application pourrait rencontrer la résistance des populations. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ouverture mercredi au Caire, en Égypte, d'une conférence de 3 jours sur l'avenir des villes africaines à l'ère des nouvelles technologies. Reportage d'Edward Yeranian, repris ici par Abdourahman Dia.
Des participants motivés par l'innovation, la création et le partage d'idées novatrices se sont donné rendez-vous à l'Université francophone du Caire. Leur objectif, faire profiter les avancées technologiques à un continent d'1,2 milliard d'habitants. Le patron d'AfriLab Nigeria, organisateur de l'événement, estime que la technologie est le moyen le plus efficace pour briser les frontières artificielles. Michael Oluwagbemi.
We need to start using technology.
Il est temps qu'on utilise la technologie pour faire tomber les murs qui nous séparent. La technologie offre une solution unique et ne connaît pas de frontières.
Le rôle des universités dans cet univers virtuel est l'un des sujets brûlants de la Réunion. Ces institutions doivent faire mieux dans l'usage du savoir. Idriss Bello, de la Sierra Leone, estime que les universités ont du mal à capitaliser sur les atouts intellectuels dont ils disposent.
Nous n'arrivons pas à créer le lien entre ce que nous apprenons dans les écoles et les problèmes que nous avons avec l'écosystème. Nous avons des milliers de projets qui dorment dans les bibliothèques, dans les livres qui ne sont pas commercialisés ou ne sont pas utilisés dans la résolution de nos problèmes dans la vie réelle.
Malgré les efforts pour améliorer la qualité de près de 250 universités, aucun pays africain n'était sur la liste de l'indice mondial de l'innovation l'an dernier. La participation des femmes dans le développement économique et le futur technologique de l'Afrique est un autre sujet de préoccupation. Florence Toffa est une femme entrepreneur. Elle déplore la stigmatisation dont elles sont victimes.
Pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, le principal défi a toujours été le choix entre la carrière et la vie de famille à la fin des études.
AfriLab veut installer 10 de hubs technologiques à travers le continent pour connecter les Africains aux idées novatrices. Et comme l'a dit son fondateur, pour encourager les jeunes à être des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abderrahman. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.